Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, Kylian Mbappé, superstar, c'est l'image du jour. L'attaquant de 19 ans fait la une du Time, le dernier Français à avoir eu les honneurs du prestigieux magazine américain. C'était le président de la République, Emmanuel Macron, en personne. De quoi mettre la pression sur les épaules du jeune surdoué à 2 heures maintenant du coup d'envoi du match France-Islande. Alors dans RTL Soir, vous connaîtrez tout sur les détails de cette consécration. Nous serons évidemment avec les hommes de Didier Deschamps à Guingamp. Nos bleus qui porteront ce soir évidemment leur maillot à 2 étoiles. Mais pour les supporters, c'est toujours aussi la galère pour l'acheter. On vous amènera en coulisses d'une rupture de stock qui fait déjà le jeu du marché noir. RTL Soir, première édition. Avec vous, Céline Landreau. Bonsoir Céline.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 19h. De 18h.
Deux morts et des habitants à bout après les inondations qui ont frappé le Var la nuit dernière. La violence du courant a emporté plusieurs voitures à la mer. Ce soir, l'heure est déjà au nettoyage. Nous serons à Roquebrune-sur-Argent dès le début de ce journal. Inculquer la laïcité dès le plus jeune âge, c'est la mission difficile des enseignants. Tenue vestimentaire, mixité, plus d'un millier de signalements ont été faits depuis le printemps.
Premier invité d'RTL Soir à 18h20, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
La francophonie célébrée en Arménie ce soir avec un hommage au grand absent Charles Aznavour. Le retour sur Terre express de 2 astronautes après leur panne de fusée. Le lancement de Soyouz a échoué, mais les 2 passagers sont sains et saufs. Les courses à Saint-Cloud. Aujourd'hui, il fallait jouer le 5, le 9, le 6, le 12, hélas. Et puis la Bourse de Paris en baisse ce soir, moins 0,85%. Le CAC 40 s'établit à 5127 points.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Taxer davantage l'alcool, c'est ce que réclament des médecins dans une lettre adressée à Agnès Buzyn. Mais aujourd'hui, l'alcool bénéficie-t-il vraiment d'une fiscalité avantageuse? Alain Duhamel, comme tous les soirs à 18h30. Ce soir, une crise politique froide. 18h35, télé, ton univers impitoyable. Dans son dernier livre, Patrick Sébastien prône la bienveillance. Alors, a-t-il encore sa place dans la télé d'aujourd'hui? L'éternel incompris, avec nous, tout à l'heure, sur RTL. 19h15-20h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Et demain, le temps sera encore ensoleillé et chaud.
Oui, belle amélioration sur la moitié sud du pays après les fortes pluies de ces derniers jours. Retour du soleil demain, sauf près du golfe du Lion, le temps sera nuageux avec un petit peu de pluie sur les Cévennes. Et puis sur la moitié nord, pas mal de grisailles demain matin au passage d'une perturbation. Attention, cette perturbation, cette nuit, va donner des ondées localement fortes et orageuses sur l'ouest et sur le nord, avec de fortes rafales de vent sur le nord-ouest du pays. Mais demain après-midi, on retrouvera le soleil sur la moitié nord et toujours une grande douceur, hein, 10 à 19 demain matin et 20 à 28 dans l'après-midi.
Merci beaucoup, Patricia Charbonnier. Les intempéries ont fait 2 morts hein, dans le Var, vous le savez. Des voitures balayées par des torrents d'eau, des maisons inondées, Céline.
Oui, 2 personnes ont été retrouvées dans leur véhicule emporté en mer par la crue au large de Sainte-Maxime. La Garonnette est sortie de son lit après de fortes pluies, près de 200 mm localement. Ce soir, le calme est revenu dans le sud du pays. L'alerte orange est levée donc et les habitants découvrent l'étendue des dégâts. C'est le cas à Roquebrune-sur-Argent, Étienne Baudu.
Oui, par exemple, Raphaël, il s'est réfugié la nuit dernière au premier étage de sa maison et ce n'est finalement qu'au lever du jour qu'il constate les dégâts. La vague d'eau a tout noyé au rez-de-chaussée.
Voilà, ça c'est cette boue, on va tout dégager. Là, il y en avait jusqu'à, bah, vous voyez les traces, hein, il y en avait jusqu'à la hauteur de la fenêtre, ça rentrait par la fenêtre, donc voilà. Voilà, bah là, il n'y a plus rien. Et voilà, les canapés en cuir, tout, c'est fini là. Et tous les canapés, ils flottaient partout dans le salon, les meubles retournés. Le frigo, il s'est écroulé dans la cuisine, pourtant c'est un gros frigo.
Les livres sont détrempés, les murs sont souillés et surtout, il y a cette boue liquide et collante à la fois.
C'est le pire là, c'est le pire, c'est le plus embêtant à nettoyer quoi. J'ai jamais vécu ça de ma vie, donc je peux pas vous dire comment on va faire, j'ai aucune idée de comment on va faire pour nettoyer tout ça, mais bon, en tous les cas, il va bien falloir le faire.
Marc, son voisin lui aussi est désespéré en voyant les dégâts, il patauge au rez-de-chaussée dans cette eau boueuse et appréhende les jours qui viennent.
Regardez ça la boue. Ah, c'est l'horreur. Après, il faut tout nettoyer, il faut faire venir des entreprises qui viennent ramasser toute la boue et tout ça, et nettoyer tout. Il faut que l'expert y passe. Il faut l'accord des experts déjà pour faire les travaux. Alors les assurances, ils vont être plus que débordés. Débordés. Alors, il va falloir attendre. C'est fou, la folie.
Alors, heureusement, la solidarité s'organise et les amis viennent prêter main forte. Mais alors qu'une averse s'abat sur la rue, Marc, instinctivement, lève les yeux au ciel.
Dans le Var, donc, pour RTL, Étienne Baudu.
Dans le même temps, à Majorque, le bilan des inondations est désormais de 12 morts. Un enfant de 5 ans est toujours porté disparu.
Rien ne semble arrêter le génie français. Kylian Mbappé fait désormais la une du Time Magazine.
Preuve, s'il le fallait, que le phénomène est bien mondial. Le prodige tricolore fait la couverture de l'édition internationale du magazine, celle qui est distribuée en Europe. Le journal américain en fait donc, Philippe Corbet, une icône de la nouvelle génération.
Oui, comme chaque année, l'édition internationale de Time publie une série de une avec les visages d'une vingtaine de leaders de la nouvelle génération, de jeunes activistes, des artistes, des sportifs qui se sont déjà distingués et qui vont compter à l'avenir. Et c'est donc dans cette liste où figure également un ingénieur camerounais, une militante argentine pour l'avortement ou la chanteuse française Christine and the Queens que le champion du monde apparaît sur une en noir et blanc, épaules nues. Il est présenté comme le symbole d'une France des possibles, le fils d'un Camerounais et d'une Algérienne qui est sorti de la banlieue pour vivre un conte de fées, des haillons à la richesse, écrit Time, un héros national adulé, mais encore adolescent, pas tout à fait un homme. La gloire et la richesse vont-elles brûler le prodige, demande le magazine, ou peut-il rester suffisamment ancré pour devenir un modèle pour les enfants du monde entier? Mbappé leur répond qu'il a appris que les plus grands sont aussi les plus humbles. Time raconte que sa mère assistait à l'entretien, visiblement assez nerveuse. Ma maman m'a toujours dit que pour devenir un grand footballeur, tu dois d'abord devenir un grand Tom.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis.
Et Kylian Mbappé qui est en Bretagne ce soir puisque les Bleus affrontent l'Islande en amical, coup d'envoi à 21h à Guingamp. Rencontre à vivre dans le club Lisa spécial France-Islande dès 20h sur RTL. Enfin, le football, c'est aussi le départ de Leonardo Jardim, l'entraîneur portugais, officiellement remercié par Monaco. Le club n'a rien dit de son successeur, mais Thierry Henry est pressenti. L'ASM pointe actuellement à la 18e place en Ligue 1.
Après des mois de silence, Christelle, l'une des femmes qui a porté plainte contre Tariq Ramadan, prend la parole et elle réitère ses accusations.
Il y a deux semaines, les juges d'instruction avaient refusé la demande de mise en liberté de l'islamologue en se fondant sur des SMS échangés donc avec celle qui se fait appeler Christelle. Une conversation qui atteste de la relation sexuelle que Tariq Ramadan a eue avec la plaignante, ce que l'accusée niait depuis plusieurs mois. Un soulagement pour Christelle qui se dit confortée dans sa version après avoir été considérée comme une affabulatrice.
Ça a été la confirmation de ce que je dis depuis plus de 8 mois. Ça montre également la manipulation mentale, le chantage affectif, les pressions psychologiques et la réelle nature de ce qu'il est.
Quand son avocat dit qu'il n'y a pas eu viol,
S'il n'y avait pas viol, je n'aurais pas téléphoné à 0800 rentrant, je n'aurais pas porté plainte et je ne me serais pas mise dans une telle histoire parce que c'est pas avec plaisir ce que l'on vit, c'est pas pour jouer, les menaces de mort, tout ce que l'on vit depuis un an, toutes les femmes qui ont porté plainte, et il n'y aurait pas des photos de ma tête tuméfiée dans le dossier s'il n'y avait rien eu. Moi je reste sur le registre de la vérité, lui il est sur le registre de mensonge, donc il est obligé de s'adapter à chaque fois au fur et à mesure que les preuves arrivent. Maintenant je soi-disant je serais consentante parce qu'il m'aurait envoyé des SMS. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors maintenant il suffirait d'envoyer un SMS à quelqu'un en lui disant je vais te tuer pour avoir le droit de le faire et ne rien risquer légalement. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise?
Témoignage RTL recueilli par Aline Thibal.
Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour diffusion d'images violentes après la mise en ligne de 2 vidéos. La première montrait la chute d'un homme qui tombe d'un immeuble et s'empale sur un poteau. La seconde, son agonie à l'hôpital. Hier soir, la mère de la victime confiait à RTL son intention de porter plainte.
Et les ennuis de Richard Ferrand ne sont pas terminés. 3 juges d'instruction ont été désignés. 3. À Lille.
Ils sont chargés de faire toute la lumière sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. Le président de l'Assemblée nationale est en effet soupçonné d'avoir favorisé sa compagne lors d'une opération immobilière. Alors l'affaire a d'abord été examinée à Paris, mais les avocats ont lancé une bataille de procédure. L'enquête a donc été délocalisée et avec la nomination de ces 3 juges, tout est relancé, Thomas Proto.
Absolument, les 3 magistrats vont reprendre pièce par pièce ce dossier assez technique. Au cœur de l'enquête, l'achat d'un local en 2010 à Brest par la compagne de Richard Ferrand, alors directeur général des mutuelles de Bretagne. Sa compagne aurait en effet signé la vente avec l'assurance que les mutuelles allaient en devenir locataires. Soupçon donc de prise illégale d'intérêt. 2 questions complexes se posent au juge. D'abord, la prescription éventuelle des faits. Le parquet de Brest avait d'abord estimé, au moment de la révélation de l'affaire, en 2017, qu'elle était acquise. Il avait donc classé, mais une nouvelle plainte de l'ONG Anticor a forcé la justice à rouvrir le dossier. 2e question, les mutuelles de Bretagne exercent-elles une mission de service public? Si la réponse est non, l'infraction ne sera pas constituée. Alors pour l'heure, aucune convocation n'a été adressée à Richard Ferrand. Mais dès son élection, le président de l'Assemblée avait annoncé sa position. Il s'estime innocent et même mis en examen, il ne démissionnera pas.
Thomas Proutot du service police-justice de RTL.
RTL sort 18h09.
Une pause et dans un instant, la bataille de l'école pour la laïcité.
18h10, suite de RTL Soir avec vous, Marc-Olivier Fogel. Et pour la suite du journal, Céline Landreau.
L'école en première ligne pour défendre la laïcité. Un millier de signalements ont été faits sur la nouvelle plateforme de l'éducation nationale, Céline.
Plateforme créée au printemps pour recenser toutes les atteintes au principe de laïcité et y répondre. Plus de 400 cas ont ainsi été traités entre avril et juin. Tenue vestimentaire, refus de se rendre à la piscine, contestation de certains enseignements au nom de la foi. Parfois, l'intervention du référent laïcité dans les établissements est nécessaire. Celui de l'académie Aix-Marseille a par exemple dû expliquer à un papa tchétchène que la mixité n'était pas négociable dans les écoles de la République.
Vous avez un papa tchétchène arrivé récemment en France qui n'accepte pas que sa fille soit assise en classe à côté d'un garçon. On demande à voir la famille et on explique à la famille comment fonctionne l'école de la République. Nous, on a préparé l'équipe à répondre à ça. Comment on fait ? Un papa qui parle mal le français, la directrice d'école, on l'a accompagné par des traducteurs, on lui a donné des éléments de discours avant que l'entretien ait lieu. C'était 15 jours de travail. Et la discussion ensuite s'est très bien passée, ce qui fait que le papa a accepté la réponse. C'est un travail à la fois de fermeté et de dialogue. Quand on dialogue avec les personnes et les familles ou les élèves, qu'on leur explique ce que la laïcité, dans la très bonne majorité, ça fonctionne très bien.
Témoignage recueilli par Marie Guerrier donc pour RTL. On y revient à 18h20 avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. La francophonie s'apprête à rendre un nouvel hommage ce soir à Charles Aznavour.
Un concert débute actuellement à Erevan en Arménie en présence de 26 chefs d'État francophones et notamment Emmanuel Macron. L'Organisation internationale de la francophonie qui devait se prononcer sur la possible adhésion de l'Arabie saoudite. Mais voilà, coup de théâtre cet après-midi. Le Royaume a retiré sa demande d'adhésion. Il faut dire que le contexte diplomatique n'est pas favorable, Christophe Decroix.
Effectivement, et l'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste saoudien d'opposition disparu à Ankara, n'a fait qu'amplifier la vague de critiques à l'encontre du Royaume. Plusieurs pays membres de la francophonie avaient émis des réserves. D'abord parce que l'Arabie saoudite n'est pas spécialement connue pour sa pratique du français. Ensuite, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, est normalement une instance où l'on défend les droits de l'homme. Mais ces deux objections pourraient s'appliquer à d'autres pays membres ou observateurs de l'OIF. Alors, pourquoi pas l'Arabie saoudite ? Eh bien parce que ce Royaume en fait vraiment trop en matière de violation des droits de l'homme et que ça commence à être gênant. En première ligne, le Canada, qui a vu cet été son ambassadeur expulsé à la suite d'un tweet dénonçant l'arrestation de militants des droits de l'homme. Parmi eux, un médecin ayant la double nationalité saoudo-canadienne, toujours emprisonné. Le Canada, qui est le deuxième bailleur de fonds de l'OIF, a donc mis son veto à cette entrée de l'Arabie saoudite dans l'organisation. Les Saoudiens ont consulté la France, qui lui a poliment conseillé de reporter sa candidature à 2020. Le sommet aura lieu en Tunisie, ce sera peut-être plus facile, espèrent les Saoudiens qui avaient déjà été retoqués en 2016.
Christophe Decroix du service étranger donc de RTL. C'était un vol rapide, voilà comment le cosmonaute russe a réagi à l'échec du lancement de la fusée Soyouz aujourd'hui, Céline.
Oui, 2 minutes 45 exactement, car peu de temps après le décollage, la fusée qui devait transporter Alexei Ovtchinine et l'Américain Nick Hague vers la station spatiale internationale a été confronté à une panne, Sophie Jousselin.
Oui, le décollage du cosmodrome de Baïkonour s'est pourtant déroulé sans problème, mais environ 2 minutes plus tard, peu après la séparation du premier et du deuxième étage dans le Soyouz, une alarme retentit. Problème de lanceur, annonce alors le commentateur russe. Un des moteurs du deuxième étage vient de tomber en panne. À ce moment-là, les deux spationautes à l'intérieur du Soyouz appliquent la procédure d'urgence. Ils l'ont répété des centaines de fois à l'entraînement et ne se posent pas de questions. Leur vaisseau se désolidarise du reste de la fusée et ils redescendent sur Terre, une descente dite balistique, c'est-à-dire qu'ils plongent en ligne droite, un retour beaucoup plus raide que d'habitude. Le russe et l'américain atterrissent dans la plaine kazakh, ils sont sains et saufs. On les a vus en photo sur Twitter devant une tasse de thé et des petits gâteaux. Les lancements vers la station spatiale sont pour l'instant suspendus. Le temps de comprendre ce qu'il s'est passé. Il reste 3 spationautes dans l'ISS. Ils devaient redescendre sur Terre en décembre. Mais il n'est pas impossible qu'ils passent les fêtes de fin d'année à 400 km au-dessus de nos têtes.
Sophie Jousselin, donc, pour RTL. À tout à l'heure, Céline, vous revenez à 15h15 si vous ne vous écrasez pas. À tout à l'heure.
15h15.
Non, à
18h15. Je veux bien, mais ce sera demain, du coup, Marc-Olivier.
Non, mais en fait, je regardais, il est 18h15 et 15 secondes.
Ah,
donc,
d'accord.
J'ai l'heure. Et en même temps,
alors vous savez que les secondes normalement sont à droite et les heures à gauche. Voilà. À tout à l'heure.